Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Bénédicte, Marie-Josée et Dominique, bonjour.
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 C'est la saison des prix littéraires. Marie-Josée, vous avez invité l'écrivain Daniel Bourion pour son roman « Le pays dont tu as marché la terre » qui a été sélectionné pour plusieurs prix cet automne. Avec vous, Dominique, on évoque une petite page de l'histoire de France au travers de la vie d'un illustre, Ambroise Paré. Ce sera en fin d'émission. Ses sculptures ponctuent l'espace public un peu partout en France. Pierre-Jean David est un artiste angevin du 19e siècle que nous connaissons tous sans le savoir. La galerie David d'Angers met en lumière les statues monumentales de l'artiste. Avec nous en studio pour en parler, Fabrice Roubiella, conservateur du patrimoine. On commence tout de suite avec ce sujet et vous, Bénédicte, c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
En verre, des sculptures monumentales sous la lumière du ciel, le musée David d'Angers est un lieu incontournable du patrimoine angevin. Fabrice Roubiella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du patrimoine, responsable des collections de sculptures. Alors, pour commencer, qui est Pierre-Jean David? Pourquoi est-il important pour la ville d'Angers?
Alors, tout d'abord, c'est un enfant d'Angers. Il est natif de la ville d'Angers. Et c'est un sculpteur important de la première moitié du 19e siècle, qui a eu une carrière nationale et internationale très prolifique, et qui a toujours gardé son attache pour la ville d'Angers, malgré à la fois sa célébrité artistique, mais aussi son implication politique, quand il a passé une très grande partie de sa vie à Paris.
Et pourquoi les œuvres sont-elles regroupées à la galerie de David d'Angers?
Alors, c'est vrai que son attachement à la ville d'Angers se ressent, se voit par des dons successifs qu'il a fait tout au long de sa vie en remerciement d'une bourse que la ville lui avait accordée à partir de 1811 pour préparer le prix de Rome, qu'il a réussi et en remerciement, il a donné ses plâtres d'atelier pendant plusieurs fois par décennie en fait, et tout a été regroupé aujourd'hui dans la dite galerie David d'Angers.
Donc il y a beaucoup de personnalités dans son œuvre, des militaires, des artistes, des hommes politiques, des écrivains, des savants. Pourquoi de tels personnages et quel était l'objectif du travail de David?
Alors c'est vrai que j'aime bien présenter David d'Angers comme avant tout étant un grand portraitiste, parce que c'est vrai qu'il aurait pu partir sur des sujets mythologiques, il l'a fait, mais ce n'est pas la majorité de sa production. Il souhaitait pérenniser les traits des personnalités les plus importantes qui ont eu une implication pour la société ou les sociétés, qu'elles soient du passé ou contemporaines. Et ce sont avant tout des hommes, mais aussi des femmes. On l'accuse souvent de ne pas avoir représenté beaucoup de femmes, mais il y en a beaucoup. Ce sont des proches, ce sont des personnalités célèbres, ce sont des scientifiques, des artistes, des hommes et femmes de lettres, etc., etc. Ils cherchaient à réaliser une sorte de galerie des illustres en quelque sorte.
Une espèce de photographie de la société de l'époque.
De l'époque et même d'avant lui.
Et même d'avant lui.
De toutes les époques.
Alors on retrouve Ambroise Paré, Xavier Bichat, Bécart, qui sont des figures monumentales de médecins de différentes époques qui se font face dans la grande nef du musée. Alors l'anatomie, c'était vraiment important pour lui.
Alors c'était important.
Est-ce que la médecine et le fait de regrouper ces personnages, c'était un peu l'origine de son travail?
Alors, la médecine était importante pour lui, la question de l'anatomie, comme tous les artistes. Chez David, on a la chance de savoir qu'en fait, il a réalisé dans sa jeunesse des dessins sous la correction, on va dire, de Béclard, lors de, probablement, de dissections. Et on conserve, nous, ces quelques dessins à la galerie David d'Angers, des dessins, de très beaux dessins, notamment à la sanguine. Et on voit qu'il cherchait à comprendre un petit peu ce qui se passe sous la peau pour pouvoir retranscrire à la fois l'anatomie, mais aussi l'émotion grâce à cette anatomie.
En fait, j'ai lu qu'il faisait partie de la Société Phrénologique de Paris. Qu'est-ce que c'est, en fait, cette science.
La phrénologie aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait qualifier de pseudo-science, puisque c'est on considérait qu'en étudiant notamment les bosses du crâne, on pouvait en déduire le caractère d'une personne. Il y a la phrénologie, il y a la physiognomonie aussi qui est elle qui prend les traits du visage pour les traits du caractère. Donc c'est des choses qui ont beaucoup animé le 19e siècle, qui aujourd'hui on en revient beaucoup, mais qui se traduisent en quelque sorte, alors chez David, avec aussi beaucoup de prise de distance par rapport à ça. C'est ça qui est intéressant chez lui par rapport peut-être à d'autres artistes, hommes de lettres.
Il s'adonnait, c'est ce que j'ai lu, à la palpation des crânes.
Oui.
Pour mieux, il paraît.
Ne me demandez pas ce qu'il faisait, je ne peux pas vous dire.
Alors justement, en préparant l'émission, vous m'avez dit, Fabrice Rubiela, que vous aviez un buste préféré dans ce musée.
Oui, c'est le portrait de Goethe, qui est une tête presque monumentale.
Décrivez-nous un peu ce buste.
Alors, c'est un buste en plâtre. Qui a aujourd'hui un aspect orangé parce que recouvert de gomme lac et qui est un buste gigantesque avec un énorme front et une chevelure. Alors Goethe était dégarni, hein, donc une chevelure présente tout de même, mais très animée. Et c'est un buste, quand on grimpe dans la mezzanine de la galerie David d'Angers, qu'on le découvre, on est surpris déjà par sa dimension et par le côté très plastique et très animé du visage, des traits du visage, du front, des rides, etc.
Alors faites-nous ensuite le descriptif de la rencontre avec Goethe. C'est quand même une histoire très originale.
Alors c'est une histoire originale et ça montre aussi que David était extrêmement impliqué lorsqu'il cherchait à faire le portrait de quelqu'un. Il voulait représenter les traits de Goethe. Il est parti à Weimar avec son ami Pavie et ils ont rencontré Goethe parce que David avait des lettres de recommandation. Goethe ne pouvait pas refuser en fait, mais même s'il a été peut-être un peu distant, mais au final David a beaucoup apprécié cette rencontre. Il faut savoir que David et son ami étaient jeunes, ils rencontraient ce si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, mais ce monstre en fait de la poésie et de la littérature allemande, et il est vrai qu'au final il a fait poser Goethe pendant en tout cas il a travaillé sur place pendant une dizaine de jours pour faire un portrait très surprenant qui probablement n'a pas vraiment plu à Goethe, mais celui-ci était poli, ne l'a pas dit et l'a reçu avec plaisir, on va dire, quand même.
Mais ce buste a servi après pour l'Allemagne nazie, vous m'avez expliqué.
Alors en fait, oui, c'est des recherches qui sont encore en cours, mais on sait que probablement en 1942, à la manufacture de Sèvres, le gouvernement de l'occupation, les occupants allemands, nazis, ont commandé un buste pour qu'il soit réalisé, une réplique, on va dire, qu'elle soit en grès cérame, qui était une des techniques de la manufacture de Sèvres, et que ce portrait a été réalisé. Le modèle était le buste qui se trouvait à la galerie David d'Angers.
Alors en quoi son art, l'art de David, est-il différent des autres sculpteurs de son époque ?
Alors, il faut savoir que David d'Angers, pendant le début de cette première moitié du 19e siècle, il n'est pas né avec le 19e siècle, puisqu'il est né avant, en 86, mais 1786, mais il est véritablement... 88, pardon, je dis des bêtises. Mais il est aussi le représentant de la jeune génération qui va se développer pendant cette première moitié du 19e siècle, qu'on a un peu de façon caricaturale, que l'on appelle les romantiques, et que l'on oppose, encore une fois, de façon très caricaturale, aux néoclassiques. Il faut savoir que David a eu une formation quand même néoclassique, notamment... ayant reçu l'enseignement de David, le peintre, le très célèbre peintre néoclassique, il a le même nom David, mais ils ne sont pas du tout de la même famille. Et il va faire une synthèse de tout ce qu'il a observé, de tout ce qu'on lui a enseigné, et il va être l'un des représentants de cette sculpture romantique qui se caractérise notamment par une grande animation des surfaces et de l'effet psychologique en fait, qui ressort notamment des représentations dans le portrait. Et ce n'est pas anodin qu'il soit allé majoritairement vers le portrait.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous aviez donné l'exemple de la douleur, qui est particulièrement représentatif.
Alors, c'est représentatif, mais c'est aussi un sujet qui lui était imposé lors du concours de la tête d'expression 1811, juste avant qu'il passe les épreuves du prix de Rome et qu'il réussisse cette année. Et c'était le sujet la douleur, un sujet imposé, mais il en fait quelque chose de très original au final, parce qu'il représente une douleur qui n'est pas complètement pleine d'emphase. C'est juste le moment avant la douleur la plus intense, ce qui crée une tension quand on regarde. On a presque l'impression que c'est nous qui allons crier plutôt que la tête qui est face à nous. Et c'est un peu le génie de David qui commence à s'illustrer.
On voit sur les veines, sur l'expression du visage.
Sur les tendons du cou, et ce qui montre l'enseignement notamment de ces séances avec Péclard.
Fabrice Rubiella, vous avez également un autre monument dans la galerie que vous aimez ou dont vous voulez parler, Talma ?
Oui, François-Joseph Talma, qui était un comédien, un acteur de la Comédie française à la fin du XVIIIe siècle, qui était l'acteur favori de Napoléon. C'est une sculpture qui est assez fascinante parce que c'est pour vous montrer aussi qu'il n'a pas représenté que des hommes de science, il a représenté un acteur. Il est célèbre, Talma, pour avoir souhaité, lorsqu'il jouait, il voulait se vêtir de la façon dont ces personnages auraient pu se vêtir, donc de l'époque des personnages, chose qu'on ne faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais ce n'était pas le cas. Et il faisait même, dit-on, corriger ses costumes par le peintre David, le grand, pas le sculpteur, mais le grand peintre.
Et donc là, il est représenté...
Il est représenté assis, en train de méditer un rôle. Donc, c'est une des premières sculptures qu'on rencontre quand on va dans la galerie David d'Angers. C'était une commande, une souscription nationale avait été émise pour justement faire un monument en l'honneur de Talma au moment de sa mort. Et au final, on a pour orner sa tombe, je crois, mais au final, l'œuvre a été donnée à la Comédie française et le marbre est encore là-bas. Et le plâtre qui a servi de référent est dans la galerie David d'Angers.
Un petit détail aussi sur Ambroise Paré, il me semble qu'on n'a pas le marbre.
Non, c'est le plâtre.
Mais c'est le plâtre.
Et c'est le plâtre qu'on qualifie de plâtre original, celui qui a servi à faire ensuite le bronze. C'est un bronze qui a été fait. David écrit quand il l'envoie, il s'excuse auprès de Mercier, qui était le maire de l'époque. Il s'excuse que ce plâtre est taché de l'huile des fondeurs qui ont utilisé le plâtre pour pouvoir faire le bronze, ce qui montre que c'était un outil, ce plâtre, et qui a du coup une valeur patrimoniale importante.
Et puis, la jeune grecque aussi, c'est un modèle, enfin une sculpture qui est vraiment magnifique, mais spéciale dans l'œuvre de David.
Qui est spéciale parce que c'est une œuvre qui a été faite en 1827 et qui a été véritablement... une œuvre qui a été réalisée par David lui-même de A à Z. Il a tout fait, des dessins, enfin du modelage jusqu'à la taille du marbre, et qui est un projet qu'il a lui-même souhaité. Eh bien, il est vrai que moi, je trouve que c'est toujours intéressant pour David Danger de venir se promener dans la galerie David Danger pour voir un petit peu quelles sont toutes ses œuvres, tous ses personnages. Il a énormément fait de médaillons aussi. En bronze, souvent, on le connaît pour ça. Et il est vrai que c'est un peu le beau teint de l'époque, en fait, quand on regarde tous ces médaillons. C'est 500 médaillons hein, qu'il a fait et qu'on les a tous parce qu'il nous les a envoyés à la ville d'Angers. Il en faisait faire un exemplaire pour lui, un exemplaire pour son modèle et un exemplaire pour la ville d'Angers, ce qui montre que même si la carrière de David Danger s'est surtout faite hors d'Angers, c'est vrai qu'il y a un attachement qui est considérable et qui fait que nous aujourd'hui avec la galerie d'Angers on essaie véritablement de le valoriser de plus en plus, même si c'est on va dire une de ces grandes figures qui est toujours compliquée peut-être à mettre en valeur aujourd'hui sur un art parfois peut-être considéré un peu comme désuet, mais qui a ouvert la voie ensuite à tout ce qui s'est passé pendant la seconde moitié du 19e siècle et qui a ouvert vers ce que l'on a qualifié la modernité. Alors, si vous me permettez, je vais exagérer un petit peu, mais je dirais que sans David Danger, il n'y aurait pas de Rodin aujourd'hui, par exemple.
D'accord. C'est voilà. une belle image pour terminer. Donc, on peut dire de David que l'art de David, c'est vraiment l'art du portrait et que c'est une introduction à l'art qui suit de la sculpture. Fabrice Rubiela, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et vous pouvez retrouver toute la statuaire monumentale de Pierre-Jean David à la galerie David Danger. Je précise d'ailleurs que c'est ouvert tous les jours gratuitement, tous les jours d'ouverture, entre 17h et 18h.
La dernière heure est gratuite.
La dernière heure est gratuite. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
On écoute maintenant Rosalia et le titre de son nouvel album Luxe. Le titre, c'est « De Madruga ».
En el pecho a mi santa le rezo las cuentas que tengo a Dios le presento la dura en el pecho a mi santa le rezo las cuentas que tengo a Dios le presento dura me pesa.
Alors, Marie-Jo, maintenant, c'est la saison des prix littéraires. Eh bien, vous avez invité un écrivain, ça va de soi.
Bonjour, Daniel Bourion. Bonjour. Merci d'être avec nous à Radio Campus pour parler de votre roman intitulé « Le pays dont tu as marché la terre », publié chez Héloïse d'Ormesson. Depuis sa sortie cet été, votre roman a été sélectionné pour plusieurs prix, dont le prix littéraire Le Monde, décerné à Laurent Mauvigné, lauréat du prix Goncourt. Je précise que vous êtes conservateur en chef des bibliothèques de l'Université d'Angers. En une phrase, ce roman, c'est l'histoire d'un homme mort tout seul à 49 ans, dans une maison en ruine, dans un tout petit village. Alors je voulais vous demander, quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce roman ? Qui était cet homme que vous tutoyez dès le titre ?
Alors l'élément déclencheur, c'est l'annonce du décès par ma maman. Moi j'habite donc j'ai un tout petit village de Lorraine, je travaille à Angers depuis 20 ans à peu près. Et donc régulièrement ma maman m'appelait pour me dire les nouvelles du village. Et dans le flot des nouvelles qu'elle m'annonce, qui sont toutes sans grande importance, le tracteur est tombé en panne, etc., elle m'annonce le décès d'un ami d'enfance et elle continue. Donc ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. D'accord. Et donc, le roman parle vraiment, enfin, le point de départ, c'est d'apprendre le décès d'un ami d'enfance dont j'ai été très proche jusqu'au collège.
D'accord. Et qui était-il ? Pourquoi il vous a... Vous avez eu envie d'écrire sur sa disparition ?
Et parce qu'au moment d'apprendre ce décès, je me suis demandé qu'est-ce qui m'en restait en fait de cet ami d'enfance, pas vu depuis bien 20 ans. Et je me suis aperçu qu'il m'en restait que des souvenirs, et oui. Des souvenirs très fragmentaires, comme la plupart des souvenirs. Mais là, en l'occurrence, ils étaient très fragmentaires.
Oui. Et il avait une particularité. J'ai cru comprendre qu'il était absent dès l'école maternelle,
tout à fait,
au collège, au lycée.
Mon premier geste a été de chercher une photo de classe de maternelle. Donc la première photo de classe que j'ai trouvée, c'était à la maternelle. En l'occurrence, une maternelle avec deux sœurs, sœur Marie-Lydvine et sœur Dominique. J'aime beaucoup rappeler leurs prénoms parce que ça me ramène à mon enfance. J'adorais ces deux sœurs.
Oui, bah c'est bien, ça vous fait plaisir.
Et sur la photo de classe, ils n'étaient pas là. Et hors pair, tout le monde est sur la photo de classe d'un village de 300 habitants.
C'est très rare, oui. Bien sûr. J'ai été bouleversée par cette histoire, mais c'est surtout votre style d'écriture, moi, qui m'a happée et sur lequel je voudrais insister. Ceci dit, je ne vous cache pas qu'au début de ma lecture, j'ai froncé les sourcils. Je donne un exemple tout au début, page 12, je crois. « Tu regardais, je ne sais quoi, la liberté s'il se trouve ».
Là, je me drôle de phrase, effectivement, comme le titre.
Je me dis, waouh, oui, comme le titre. Mais très vite, j'ai compris que vous inventiez votre propre langue en brouillant les formes grammaticales, et cela aboutit à une poésie éblouissante. D'ailleurs, j'ai cru déceler dans votre prose une influence germanique. Vous pouvez nous éclairer à ce sujet ?
Tout à fait, moi je viens de la Moselle-Est, donc d'accord. Ma langue maternelle n'est pas le français. Ma langue maternelle, c'est le patois germanique lorrain. Qu'on appelle le plat, et j'ai appris l'école avec le français, pardon, à l'école avec les deux fameuses sœurs. Donc, alors je leur suis redevable éternellement, enfin au moins le temps que va durer ma vie, d'avoir appris le français. Donc j'ai appris le français à l'école, et de fait le français pour moi c'est pas ma langue maternelle, ce qui me permet, je pense, d'avoir un certain nombre de libertés par rapport à la langue française.
Oui.
Et également j'ai constaté que dès que je rentre dans la fiction, les structures grammaticales de l'allemand viennent pas perturbés, mais viennent jouer avec la langue française.
Moi, j'ai étudié l'allemand et tout de suite, je l'ai senti.
Ben, je joue avec ça, hein. Je cherche la limite du français, en fait.
Et, par exemple, je voudrais citer deux phrases qui illustrent votre propos. Je les ai notées. Et alors, c'est une phrase que je relis éternellement et dont je ne me lasse pas. « On s'appuie le temps que ça passe sur l'air autour. » Là. La grammaire, elle est quand même escamotée en français. Mais pour moi, c'est de la poésie. Une autre. Il avait, d'une semaine au moins, quitté ce monde. Vous mettez le verbe à la fin, comme en allemand.
Oui, et puis parce que je pense que j'ai une liberté totale, en fait, par rapport au français. Je cherche la limite.
Et c'est vrai que je suis assez proche de la poésie, parce que mes premiers écrits, c'était vraiment de la poésie.
Ah oui, et ouais. On le sent, et en fait, c'est ce qui fait le charme de ce livre. Et c'est pour ça que je l'aimais, puisque moi, le style prime par rapport à l'histoire. Votre roman ne fait que 125 pages, purgé du superflu, et sans aucun bavardage. Alors moi, ça, j'apprécie beaucoup. Je voulais vous demander, comment s'est passée la rédaction du manuscrit ? Est-ce que vous avez beaucoup raturé, nettoyé votre texte ?
Pas tellement. Le livre tel qu'il a été publié, c'est quasiment un premier jet. Mon travail, c'est vraiment... Je travaille dans un flux, qui est presque un flux musical d'improvisation. Et ensuite, mon travail d'auteur, il est plutôt, comme vous l'avez dit auparavant, de nettoyer. C'est-à-dire, je vais vraiment chercher le plus dense possible. Donc, j'enlève, mais pas tellement de choses, que j'ai la chance de produire quelque chose d'assez finalisé d'emblée.
D'accord. Ça coule tout seul quand même.
Pas tout seul, relativement tout seul.
Oui. Et alors justement, est-ce que, comme vous avez été publié chez Héloïse d'Ormesson, je note que vous jouez dès le premier roman dans La Cour des Grands, je voulais vous demander pourquoi avoir attendu 2025 pour la sortie de ce manuscrit alors que l'événement date de 2014, si j'ai bien compris.
Oui. L'événement, c'est-à-dire le décès.
Voilà. Il est mort en 2014. Vous l'avez appris quand, le décès ?
En 2014.
Ah oui, et vous avez attendu tout ce temps ?
Ben, il faut le temps de mûrir les choses.
Plus de 10 ans pour... Est-ce que...
Donc c'est 10 ans pour mûrir, 125 pages, finalement, c'était pas si rapide que ça.
Oui. Est-ce que Héloïse d'Ormesson s'est impliquée dans votre... Est-ce qu'ils ont...
Pas tellement, il n'y a pas eu un énorme travail littéral. Il y a eu un
Ils ont corrigé, conseillé, ils ont pris tel quel.
Très peu. Ça a été vraiment sur du fignolage, c'est-à-dire des virgules, des répétitions, etc. Mais globalement, il y a très peu de différence entre le livre publié et le manuscrit.
Oui. Ça aussi, je l'ai noté et je trouve que ça attire le lecteur quand même. Héloïse d'Ormesson, je me suis dit quand même, c'est la qualité. Il ne publie pas beaucoup de romans par an. Donc, c'est quand même un signe.
Alors, un coup de cœur pour vous, Marie-Jo.
Hein? Ah oui, oui, oui.
Merci. Merci.
Merci à vous.
Daniel Bourion, je rappelle donc, Héloïse d'Ormesson, c'est l'éditeur. Je rappelle le titre, qui est bien expliqué par l'origine germanique de votre langue. Le pays dont tu as marché la terre, Daniel Bourion. Précipitez-vous sur vos librairies préférées, par exemple La Cohue à Angers, place de la Gare.
Et moi, au hasard. Votre prochain roman.
On a compris. Marie-Jo. Une prochaine chronique s'approche. On y va, Dominique ?
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Et notre dernier sujet avec vous, Dominique, un peu de mystère. Pourquoi parler d'Ambroise Paré sur une radio locale angevine ?
Et tout d'abord parce qu'il est né près de Laval, mais aussi parce qu'il a exercé à Angers, notamment au début de sa carrière. Aussi, évidemment, parce qu'il tient une place importante dans les créations du sculpteur David d'Angers, et nous venons d'en parler très longuement. Ensuite, parce que la ville d'Angers a cru nécessaire de donner à l'une de ses rues le nom de ce chirurgien considéré comme le père et le réformateur de la chirurgie française. Cette rue, elle longe le côté nord de l'enclos de l'abbaye Saint-Nicolas. L'abbaye Saint-Nicolas, c'est celle qui surplombe l'étang du même nom.
Alors, une petite biographie d'Ambroise Paré, s'il vous plaît.
Ambroise Paré, il est né en 1510. Il a vécu tout au long du XVIe siècle, puisqu'il est mort à l'âge de 80 ans. Aujourd'hui, les historiens le surnomment le roi des chirurgiens et le chirurgien des rois. Il est fils d'agriculteur, donc à Laval. Et son père était également fabricant de coffres. Il débute sa carrière à Angers, comme je l'ai déjà dit, comme barbier chez un aide-soignant. Car au milieu du XVIe siècle, les métiers de barbier et de chirurgien étaient exercés par la même corporation.
Bon, incroyable.
Incroyable. Mais évidemment placés sous la tutelle des médecins, sous prétexte que, pour être scientifique, il fallait s'exprimer en latin. C'est à cette époque, donc milieu du XVIe siècle, qu'il intervient au Poncé pour séparer deux fillettes siamoises. Il documente son opération, dessin à l'appui, même si malheureusement elle n'a pas permis la survie des deux fillettes.
Alors dans toute cette vie déjà bien riche, il a eu aussi une carrière militaire.
Il s'engage effectivement dans l'armée, L'occasion lui est donnée d'entrer au service de cette armée, qui est importante à l'époque. Il effectuera une partie importante de sa carrière. Les premières guerres sont bien sûr les guerres d'Italie, celles qui sont menées par François Ier. Puis viennent les sièges de Perpignan, Boulogne, Rouen, Dreux, Le Havre. C'est très important. C'est la France qui combat contre les Anglais. Et finalement, il termine ses campagnes militaires par des interventions au cœur des guerres de religion. Au cours de ces interventions, il met au point un large matériel chirurgical, notamment le bistouri, et il prône l'usage de la ligature des artères et des veines après amputation plutôt que la cautérisation des plaies à l'huile bouillante, ce qui évidemment devait être affreusement douloureux. Il est donc évident que ces méthodes vont séduire à la fois les officiers, à la fois les soldats, sans se soucier des remarques souvent acerbes de la faculté de médecine.
Voilà, un innovateur, donc on lui doit aussi de nombreuses publications.
On lui doit bien sûr de nombreuses publications. La méthode de traiter les plaies faites par des arquebuses et autres bastons à feu et celles qui sont faites par la poudre à canon. Il publie également un précis d'accouchement et d'anatomie, enfin 10 livres de chirurgie et le magasin des instruments nécessaires aux interventions.
Alors, pourquoi était-il nommé aussi le chirurgien des rois ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il est tour à tour chirurgien d'Henri II, alors non pas le Plantagenet, le roi d'Angleterre, puisqu'il a vécu au XIIe siècle, mais Henri II, roi de France, fils de François Ier, puis il est chirurgien de François II, Charles IX, Henri III, ils sont tous les trois les fils d'Henri II, donc lui-même fils de François Ier. Voilà, on a toute la dynastie française du XVIe siècle dont il a la charge.
Donc ce titre chirurgien des rois est justifié.
Complètement. Il est d'ailleurs appelé en urgence par Henri II, qui disputait un tournoi à Paris, alors qu'il venait d'être grièvement blessé à la tête par une lance qui venait de transpercer son casque.
Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chirurgien ?
Ce chirurgien, il peut se glorifier de s'être élevé de rang de barbier au titre de chirurgien, mais non sans avoir mené quelques querelles, évidemment, avec la faculté de médecine, puisqu'il n'a pas suivi les cours de cette noble institution. Il a donc créé, au travers de ses expériences militaires et royales, le statut de chirurgien en France.
Ah, ça n'existait pas avant ?
Non, puisque on l'a dit, ils étaient à la fois barbiers.
Voilà, donc là, il n'était plus que chirurgien.
Là, maintenant, le titre officiel et unique de chirurgien apparaît à l'issue de cette grande carrière de Françoise Paré.
D'Ambroise Paré.
Et c'est donc tout à fait naturellement qu'on retrouve ce grand personnage de l'histoire de France dans la galerie David d'Angers, dont on vient de parler. C'est grâce à une commande qui est faite par la ville de Laval, d'un portrait en pied de ce grand chirurgien. Cette œuvre du sculpteur David d'Angers est accompagnée de la devise « Je le pensais », alors P-A-N-S-A-I bien sûr, « et Dieu le guérit ». C'est une statue de 2,60 m de haut. Elle est située juste à côté de Xavier Bichat, autre médecin célèbre également représenté dans cette galerie rue Toussaint.
Bon, alors cette émission-là, il faut absolument aller à la galerie David d'Angers. Hein. On voit et David d'Angers et Ambroise Paré. Merci beaucoup à tous, Daniel Bourion, Marie-Jo, Dominique, Fabrice Rubiella et Bénédicte. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture, tous azimuts en Anjou. Merci beaucoup à Sylvain pour la technique, ça a été un peu sport là. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.